Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Et on va clôturer ce mois comme tous les autres cette année avec notre saga Bowie, dont c'est le 8e et déjà avant-dernier épisode, Gauthier. On avait laissé notre bon David au milieu de l'année 79 avec la sortie de Lodger qui concluait la fameuse fabuleuse trilogie berlinoise qu'on a déroulée durant les deux derniers épisodes de la saga. Pardon. Et avec du recul, quand je repense à tous les albums de Bowie qu'on a décortiqués, à tous les styles qu'il a explorés, que ce soit d'un point de vue musical, vestimentaire, je dois bien reconnaître que c'était réellement un homme à part qui ne vivait pas avec son temps, mais avant son temps. Et vu le nombre de types qu'il a inspiré, je crois que je suis pas le seul à le penser. Mais revenons-en à nos moutons et justement à celui qui n'en est pas un. Dans l'épisode de ce jour, on va avoir quelques séparations, des rencontres, un dernier album toujours aussi chicos et Closenomy. Bref, un très joli programme. Mais je vous propose qu'on se plonge dans le bain tout de suite en s'écoutant l'un des tubes de Bowie sorti sur l'album Scary Monsters, Ashes to Ashes.
Time road.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Vous l'entendez aujourd'hui, c'est Saga Bowie. On est au début des années 80, Gauthier, et à ce moment-là, on l'a suffisamment répété, on est sur l'après-période berlinoise. Qu'est-ce que cette période a laissé derrière elle ?
Ah, écoute, on est au tournant des années 80, les enfants de David Bowie sont en train de congeler littéralement l'Angleterre et le reste du monde avec leur cold wave sombre et glacial. Je pense à Joy Division, au Cure, on pourrait en citer Echo and the Bunnymen, enfin on pourrait en citer des pelletée entière, tandis qu'une armée de plus jeunes, influencés plus par la période glam de David Bowie, sont en train, eux, de se grimer dans leur chambre. Ils doivent avoir 12 ou 15 ans à ce moment-là. Je pense à Duran Duran, à Japan, à Rick Smix, à Depeche Mode, à tous ces groupes qui se saisiront d'une autre forme de musique de David Bowie pour en faire eux-mêmes un mouvement musical.
Et tu as d'ailleurs quelques recommandations pour les auditeurs qui voudraient découvrir les enfants de Bowie, que ce dernier a d'ailleurs parfois renié.
Oui, alors ça serait d'aller écouter, parce que c'est marrant, je le cite lui, parce que David Bowie se l'est payé. Gary Numan et ses deux très bons albums Replicas en 79 et The Pleasure's Principle en 79, allez les voir, ils cartonnent à l'époque ces albums et ils sont visuellement des repompages total de la période berlinoise de David Bowie.
C'est ça, faut pas seulement les écouter, faut aussi les voir.
Ouais, c'est pour ceux qui veulent pas les écouter, vous pouvez déjà juste regarder la pochette. Bowie d'ailleurs désinguera Newman dans Teenage Wildlife en disant notamment ce que Newman a fait, il l'a fait parfaitement, c'est vrai, mais en répétition dans la même information qui revient encore et encore une fois que vous avez entendu un morceau, comprendre, il m'a pompé jusqu'à la moelle. Mais bon, quand on veut être novateur, il faut l'accepter, mon David.
On peut pas, en effet, vraiment dire que ça transpire l'amour paternel, en tout cas. Et après les recommandations de disques, t'as une recommandation vidéo cette fois, Gauthier.
Oui,
je peux qu'approuver ce conseil, pardon. Tant la vidéo est extraordinaire au sens littéral du terme,
ouais,
vraiment.
Bah,
sort de l'ordinaire.
Si vous voulez savoir où en est David Bowie à la sortie de sa période berlinoise artistiquement, allez regarder sur YouTube une vidéo que mon frère, en son temps, m'avait montrée, qui vous pète la rétine littéralement et qui reste définitivement figé dans votre mémoire ad vitam aeternam. On est en 1979, en décembre. David Bowie participe à la mythique émission Saturday Night Live et il est emmené sur scène, littéralement au sens propre du terme, par deux choristes qui le portent, à savoir Joey Arias et surtout l'improbable Klaus Nomi.
C'est incroyable ce mec.
Ouais, allez vraiment le voir. Il y chantera notamment The Man Who Sold the World, habillé dans une veste rigide. C'est un clip, enfin un petit concert, ce qui a trois chansons.
C'est ça.
Absolument incroyable. Et qui montre à quel point David vole au-dessus de tout le monde artistiquement.
Le reste appartient à l'histoire. Faut vraiment la voir, cette vidéo. C'est pas compliqué, hein. Vous tapez Bowie Saturday Night Live 79, vous pouvez pas la rater. Et d'ailleurs, faut voir la suite, puisqu'il enchaîne deux morceaux, dont l'un déguisé en marionnette, dont la vision est par ailleurs assez terrifiante. Mais quittons le personnage pour revenir à l'homme. Au niveau relationnel, Gauthier, ça va pas très fort pour Bowie.
Alors non, il est en train de divorcer. Il partage ça avec son producteur historique Visconti, qui est lui-même en train de divorcer.
Mais ils vont se consoler dans le travail.
Mais il vaut mieux se consoler comme ça, mon cher Théo. En allant en studio, direction New York, puis Londres, notamment pour aller s'atteler à la gestation de son prochain album, à savoir Scary Monster.
Donc, pardon, on quitte Berlin.
On quitte Berlin, c'est fini la période berlinoise, mon cher Théo.
Ok.
Je t'ai assez pété les oreilles avec.
Et donc, vas-y, je te laisse poursuivre.
Oui, et Dieu que cet album sera important dans la discographie de David Bowie. Pour beaucoup, c'est le dernier grand album de David Bowie. C'est le dernier album studio de Bowie avec RCA, hein, son label, on va dire, historique de l'époque.
Problématique, ouais.
C'est la dernière collaboration aussi entre lui et Visconti pendant plus de 20 ans, on y reviendra. C'est un album extraordinaire, je vous propose un tout petit extrait de la chanson « It's Not a Game, Part 1 ».
Just to have a
Il a pris un abonnement au Passive Valda, non, après ça.
Vous avez pas la vision du studio où Théo se bouche les oreilles pendant que,
c'est une horreur.
Pendant que je jubile complètement.
On le disait il y a quelques instants, Bowie commence à comprendre l'importance de la vidéo et ce qu'elle peut apporter au mythe qu'il est en train d'écrire, Gauthier.
On est David Bowie, hein, donc on a un coup d'avance comme toujours.
Toujours.
Et le résultat de cette prise de conscience de l'outil vidéoclip qui va apparaître dans quelques années, et ben c'est le clip de Ashes to Ashes qu'on a entendu tout à l'heure, co-réalisé par Bowie et David Mallet. Alors un peu spécial hein, comme clip, indubitablement, qui coûtera à l'époque 500 000 livres sterling, ce qui rapporté au coût d'aujourd'hui vaut quand même 2 millions de dollars. Donc quand notre ami se lance, voilà. Et qui, petit fun fact, restera pendant très longtemps le clip le plus cher de l'histoire, parce que quand ce cher David Bowie s'y met.
Pas les choses à moitié.
Non, pour un résultat que je qualifierais à tout le mieux de existant. voilà. Et à titre indicatif, je suis allé vérifier, mais dans les top 4, il y a quand même 3 clips de Madonna, puisqu'il y a Michael Jackson et Janet Jackson pour Scream, qui a coûté quand même la bagatelle de 7 millions de dollars à l'époque. Ramené aujourd'hui, ça fait 13 millions de dollars pour un clip à la con.
Qui, soit dit en passant, a lui aussi le mérite d'être existant.
Qui est existant. Et après, il y a Madonna avec Diana the Day, épouvantable. Express Yourself, pas top. Et Bedtime Story, épouvantable. Bon, enfin bon, écoute, hein. Voilà. Diana the Day, c'est sa chanson de James Bond, là.
Ah oui, tout ouais, à fait.
Épouvantable. Ouais. Un très mauvais James Bond, une très mauvaise chanson. Peut-être même le plus mauvais James Bond de l'histoire, je pense, d'ailleurs, Diana the Day. C'est celui avec Denise Rich. Non, avec Sophie Marceau.
Ouais, il est pas. Mais, et du coup, Denise Rich aussi.
Non, pire, c'est celui avec Halle Berry, Diana the Day. Avec le chinois, tu sais, qui a des
oui,
diamants. Oh, il est épouvantable.
Ouais. Je crois qu'il est coréen.
Coréen, c'est pas, enfin, ça reste épouvantable. Oui, parce qu'il se fait attraper en Corée du Nord au début, je crois. Il est atroce. Voilà.
Alors, je te propose qu'on parle ciné en se marquant une petite pause, Gauthier. On fera ça pendant la pause. On s'écoute Because You're Young. Et donc cet album, Gauthier, dans son titre intégral, Scary Monsters and Super Creeps, qui est porté peut-être par le clip d'Ashes to Ashes, qui sait, connaît un succès phénoménal.
Ouais, c'est peut-être bien de le dire pour le dernier grand album de David Bowie, mais c'est un carton absolu qui culmine à la première place des UK Album Charts, la première fois depuis Diamond's Dog en 1974. David Bowie s'en réjouira, il restera 32 semaines, soit aussi la plus longue performance pour lui depuis Aladdin Sane, ce coup-ci, en 1973.
Et donc c'est le dernier grand album.
Ouais, c'est le dernier grand album, et ce qui est absolument invraisemblable, c'est qu'entre Hunky Dory en 71 et donc Scary Monster en 1980, il y a à peine 10 ans, moins de 10
ouais,
ans,
9 ans,
qui, ouais, 9 ans qui se passent. 11 albums,
c'est dingue.
11 albums studio sont lourdés en moins de 9 ans, dont la quasi-totalité sont soit des chefs-d'œuvre intemporels, je pense à Ziggy Stardust, Hunky Dory, etc., etc., soit des révolutions musicales absolues, je pense à toute la période berlinoise. C'est quasiment, et je crois qu'on peut le dire, quasiment plus fort que les Beatles, qui ont fait à peu près les mêmes temps de passage en 10 ans, ouais, en nombre d'albums, mais qui n'ont peut-être pas été aussi loin dans la déconstruction musicale que David
dans
Bowie.
Dans la recherche.
Ouais. C'est absolument invraisemblable. Et qu'on se le dise, c'est peut-être la plus grande performance de David Bowie dans l'histoire de la musique et sa plus grande contribution à l'histoire de la musique.
Hunky Dory, on en parlait en décembre.
On en parlait en décembre, ouais. Ou même encore avant, en novembre, ouais.
T'imagines ?
C'est invraisemblable. Et en 9 ans, il a créé quasiment, je sais pas, peut-être 4 styles musicaux différents. Enfin, c'est fou. C'est fou.
On est bien d'accord sur ce dernier point, Gauthier. Même si certains morceaux sont difficilement appréciables à la première écoute.
Eh oui, mais tu fais pas une révolution.
Je pense
sans
à
casser des
It's
yeux,
Not
mon cher
a
Théo.
Game Part One.
Elle est monstrueuse cette chanson.
Il faut toutefois reconnaître le talent inconditionnel du monsieur. Mais ce talent s'accompagne d'une rigueur pour le moins respectable, Gauthier.
Oui, parce qu'il y est arrivé avec une exigence artistique monstrueuse au point que quand Under Pressure, que vous connaissez tous, sorti en 80. Avec Queen, ouais. Sortira, il ne sera que son troisième
avec Queen ou juste Freddie Mercury?
Avec Freddie Mercury, je crois
que c'est juste Freddie.
Au point que ça sera que son troisième single numéro 1, c'est finalement extrêmement peu quand on sait tout le bien qu'il a fait à la musique pendant ce temps-là. Et Scary Monster, si on doit le resituer dans la discographie, c'est en fait une sorte de fusion parfaite entre les exigences formelles de David Bowie à Berlin et le talent unique qu'il a pour la mélodie pop. Je sais que tu as hurlé, mon cher Théo, avec It's Not a Game Part 1, mais c'est hallucinant d'arriver à casser la mélodie à ce point tout en restant quand même dans des standards pop.
Il faut reconnaître qu'il le fait très bien.
Ah non, mais c'est incroyable de chanter comme ça. C'est incroyable.
Et David Bowie, mon cher Gauthier, semble avoir une soif de reconnaissance inextinguible malgré les innombrables numéro 1 qu'il a pondus. Il cherche à rencontrer un public plus large, toujours plus large, désormais, et il va utiliser plusieurs moyens pour cela.
Oui, c'est la période où David Bowie se dit qu'il va peut-être vouloir faire un peu de moula, enfin en tout cas qu'il veut faire du mainstream, de la gloire, il veut être connu. Il va s'y étaler pendant toute cette période, notamment des années 80-90. C'est la période des duos foireux avec Mick Jagger sur Dancing in the Street. Un clip aussi à
aller voir le clip.
Terrifiant. Ouais. Mais pour la
en legging vert, ouais. Toute beauté.
Et, ouais. Et qui est pour une fois pour la bonne cause, puisque Mick Jagger n'essaie pas de faire de l'argent, puisque c'est pour le Livehead. On le verra aussi tourner dans des pubs Pepsi avec Tina Turner, etc. La révolution géniale, qu'on se le dise, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette prescription, on va dire, cette saga sur ses premières années. La révolution musicale pour David Bowie est très 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 loin, il l'a complètement abandonné.
Mais il n'y a pas que du mauvais dans cette période des années 80, Gauthier, puisqu'en 83 sort un autre album de Bowie que tout le monde connaît, il a réussi son pari.
C'est celui qui suit Scary Monster, c'est Let's Dance, c'est celui qui effectivement va lui donner sa consécration planétaire.
Un petit bémol toutefois sur cet album, puisqu'on perd Visconti à la production, alors attention, il est avantageusement remplacé par un autre type aux doigts d'or.
Ouais, Nile Rodgers, qui, quand tu veux composer des tubes, n'est pas le dernier. On en parlait presque avec Daft Punk la semaine dernière. David Bowie signe chez EMI. Grand seigneur, il oublie complètement de prévenir Visconti qui va avoir un nouvel album à faire et qui va le faire avec Nile Rodgers, qui se tenait pourtant ce pauvre Visconti dans les starting blocks, d'où l'absence de collaboration entre les deux pendant 20 ans. Il n'y a plus Carlos Alomar, c'est terminé les expérimentations en studio. Ouais, on va chercher une future star montante à l'époque à la guitare, dénommée Stevie Ray Vaughan, qui pour les plus grands bluesmen savent que c'est un sacré guitariste.
Plus de, soit dit en passant, plus de Brian Eno non plus.
Non, c'est fini là.
C'est fini.
Non,
okay.
Là, on veut faire de la moula. Hein, c'est,
ok. T'as une citation un peu surprenante de ce bon Nile Rodgers, Gauthier, qui justement nous en apprend un peu plus sur le David Bowie des années 80.
Oui, parce que Nile Rodgers, en fait, comme tout le monde à l'époque, admirait David Bowie comme le pape de la créativité mondiale en matière de pop, rock, etc. Et va être un peu déçu quand David Bowie va l'appeler. Il va lui dire: Nile, je veux que tu me fasse des hits. Et il le dira lui-même: j'ai été un peu pris de court parce que j'avais toujours supposé que David faisait de l'art en premier, et c'est vrai que quand il m'a demandé de faire simplement du succès, bon bah voilà, donc c'est presque un Nile Rodgers qui va à marche arrière quoi.
Et tu l'as dit il y a quelques instants, mais tu vas le développer maintenant, l'album Let's Dance est un succès phénoménal.
C'est son carton total et absolu, l'album rentrera top 1 des charts anglais, top 4 pendant 3 semaines ce qui est beaucoup pour un David Bowie. Il sera 4e dans les charts américains. EMI déclara que Let's Dance est l'album le plus vendu depuis Sgt. Pepper's de leur catalogue qui était sorti en 67. 10 700 000 copies vendues, c'est ce qui était énorme. Ouais. Et l'album le plus vendu.
Plus que Daft Punk.
Plus que. L'album le plus vendu pour David Bowie, voilà, c'est un succès absolument hallucinant. Et on peut le pousser encore plus loin, Théo. Le succès est tellement hallucinant que toute la discographie entre 69 et 74 ressort à ce moment-là et se classe dans les charts en juillet. David Bowie a 10 albums. Dans le top 100 britannique.
Ouais. Petit effet locomotive de Let's Dance, ouais.
Mais
qui n'est pas négligeable.
10% de tout le top 100, c'est lui.
Ouais, c'est colossal.
C'est invraisemblable. Voilà.
Et du coup, presque sa discographie...
Oui, il y a quasiment sa disco. Ouais, il y a quasiment toute sa disco. Peut-être pas les 2-3 premiers albums qui sont pas ouf, et puis tout le reste, il passe quoi.
L'émission touche à sa fin, Gauthier. Je crois que t'as une petite citation d'un journaliste de Rolling Stone qui résume assez bien l'effet Let's Dance.
Oui, et profitons-en parce que c'est bien l'une des rares fois où je citerai cet épouvantable magazine qui est Rolling Stone. C'est Andy Green qui écrira que Let's Dance est la conclusion de la plus grande course de 14 ans de l'histoire du rock. Je vous le disais, mais à bien des égards, ce que David Bowie a fait en 11 albums, ça peut être approché, voire devancé les Beatles, et je pense que c'est le seul qui peut s'asseoir à la table des Beatles en matière de créativité musicale. Je parle pas de Led Zeppelin, des Rolling Stones, qui ont été des monstres d'albums, mais les deux...
De créativité.
Voilà, les deux mamelles de la pop rock anglaise et même mondiale, ça a été et ça sera toujours David Bowie. Peut-être Radiohead. On verra à la fin, Théo.
Mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est que Andy Green, il écrit ça en 2014.
Ouais.
Donc, avec le recul nécessaire, si tu veux. Voilà.
Il y a qui a fait ça en 10 ans, quoi?
Pas grand monde, Gauthier.
Non, personne.
Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en restant sur l'album Let's Dance et en écoutant Criminal World. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut.
Door. That was no ordinary stick. I'm